Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Qu'est-ce que c'est sympa de vous retrouver. La semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, vous savez, pour des raisons indépendantes de ma volonté. C'est quand même sympa. On est très content de retrouver les invités, content de refaire cette émission, content de parler de ce dont on a parlé en première partie. En deuxième partie de l'émission, on va parler évidemment questions incontournables. Où vont les marchés? Est-il temps? C'est la question d'argent de la semaine. Est-il temps de revenir sur les valeurs de croissance? Et bien, évidemment, on aura les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants. Et il y a des surprises, c'est marrant. Enfin. Et les actions à acheter ou vendre. Alors les marchés, on y va, on fonce. Bon, ça va mieux quand même. On s'est fait très très peur, hein. Rien n'est acquis. Hein. Mais bon, le CAC en baisse de 7-8%, le DAX 10%, le S&P 16%, le Nasdaq quand même, hein, en baisse de 28,5% malgré son rebond fulgurant de la semaine dernière. Bon, voilà, en gros, on est dans un environnement fortement en baisse. C'est-à-dire, si on débarquait aujourd'hui, on se dirait « Ah ouais, quelle année pourrie !» Oui, mais si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé il y a deux semaines encore, on regardait les chiffres. Alors, c'est un beau comeback des marchés. Mois d'octobre spectaculaire. Depuis quelques séances de hausse, hein, historique presque. Hein, 7% sur le Nasdaq, quand il y a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Et toujours la même interrogation, hein, Virginie Robert. Est-ce que c'est la fin de la baisse? Est-ce que ça y est, on tourne la page? Le pivot, on a le pivot de l'inflation, on va avoir le pivot des banques centrales, donc il est normal qu'on ait le pivot des marchés, ou comme beaucoup le disent encore, de gens très prudents, ils disent non, attendez, c'est juste un rebond technique dans une tendance de fond qui est baissière.
Alors, ça peut être un effectivement. Moi, j'en sais rien.
Si vous en savez rien, c'est pas moi qui vais répondre.
Parce que je vais vous dire, les séances à plus 7%, ça, c'est éventuellement des rachats de short.
Qu'est-ce que c'est beau?
Mais oui, parce que ça fait du bien, effectivement. Ouais, mais il y a beaucoup de shorts quand même. Vous regardez certaines sociétés, elles sont très shortées. Donc,
shortées, ça veut dire des vendeurs à découvert, c'est-à-dire des gens qui jouent le fait que leur valeur.
Donc là, ils se remettent neutres. Bon, donc là, mécaniquement. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour qu'il y ait vraiment un rebond dans les marchés, il faut qu'on passe d'un modèle de, on appréhende les marchés sur le momentum à un modèle d'analyse fondamentale. Il y a quelques signes, on voit bien que là, vous avez vu cette semaine, Walmart a bien publié, c'est bien passé, Target, qui est dans le même secteur, ça s'est mal passé. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir une espèce de différenciation. Mais il y a encore 15 jours, il y avait deux sociétés dans le secteur des softwares qui avaient publié et tout le secteur a été planté sur la semaine. Donc, pour le moment, on n'est pas encore sur un marché très stable. Mais je pense qu'on est plus proche en tous les cas. Comme je dis, les signes noirs, ils sont passés et peut-être qu'il y a des signes blancs qui vont commencer à revenir dans le ciel. Donc oui, il faut commencer.
Donc, de toute façon, on ne peut pas faire tout blanc, tout noir. Vous ne pouvez pas affirmer, comme Denis tout à l'heure, le pivot de l'inflation aux États-Unis, ça y est. Là, on n'a pas pivoté, mais vous dites...
Il faut y aller,
On peut commencer à racheter.
Bah, évidemment.
Bah, évidemment, est-ce que je sais, moi?
Oui, évidemment. Moi, particulier sur les valeurs de croissance, parce qu'il y a...
Ah, on va en parler tout à l'heure. Non, pardon. C'est le thème d'après.
Ok.
William, les marchés...
On n'en sait jamais rien.
Oui, bah, ça, par principe. Okay,
par principe, donc c'est pour ça qu'on est toujours investi à 100%. Et donc, je conseille à tout le monde d'être investi à 100%.
Ouais, mais attendez.
Parce que généralement, marchés montent. Il ne faut jamais oublier ça.
Ok, William, on est à 100%. Ah, ça fait très, très mal. Excusez-moi l'expression, ça fait mal aux fesses. Hein, une année où, quand vous êtes investi à 100% sur le Nasdaq, vous perdez 35%. Oui.
Il ne faut jamais être investi sur le Nasdaq.
Ah, du tout?
Non, mais il ne faut pas investir dans les valeurs de croissance.
Ouh là 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 là, on va en parler tout à l'heure. Ah là là, il va y avoir un très beau débat tout à l'heure. Bon, les marchés, ça va rebondir ou pas?
Bah, les marchés, d'abord, ne pas oublier qu'il y a une guerre en Ukraine, que tous les États sont en train de se réarmer. que généralement, ça a toujours été bon pour l'économie. Donc, c'est pour ça que j'étais plutôt optimiste après le mois de février. Que par ailleurs, moi, je suis monétariste, donc je dis il y a énormément de monnaie partout. Donc, c'est un soutien pour les marchés, pour l'activité. Et c'est pour ça que, bon, la récession que tout le monde prévoit l'année prochaine, je ne suis pas complètement convaincu qu'elle ait lieu. Et de toute façon, elle est déjà dans
les... Vous voulez dire qu'ils se plantent, les deux, là, Anna et Denis ?
Non, mais bon...
Non, vous pouvez leur dire, hein, ils sont là, non, ils vous écoutent. Vision, hein. Vous pouvez leur parler. Hein.
Non, ma vision, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Ouais. Donc, c'est à partir du moment où tout le monde est d'accord pour dire il y a la récession en 2023,
c'est trop tard.
Il faut garder la petite possibilité qu'elle n'ait pas lieu.
Oui, mais surtout que... Attendez, là, on va revenir là-dessus, puis je vais passer la parole deux secondes, même si on parle marché aux économistes, ils ont le droit d'en parler. C'est une récession qui est souhaitable. Parce que, comme on vient de le dire, elle va permettre de réduire les déséquilibres, elle va permettre d'atténuer l'inflation. Donc, non.
Bah, ça dépend d'où elle vient. Si la récession elle vient que du consommateur, parce que en fait, malgré les aides étatiques, il perd du pouvoir d'achat. Oui, il va peut-être consommer un peu moins, mais comme je disais, de toute façon, on a une vague déflationniste sur les biens qui vient. Les services, peut-être, ça va aider les services à se calmer, même si aujourd'hui, elles sont pas source d'inflation.
Ouais.
Donc, tout dépend de l'origine de la récession. Après, effectivement, normalement, dans la durée.
Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais ça ne va pas vraiment régler le problème d'inflation. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la moitié de l'inflation, elle est drivée par les prix de l'énergie. Okay. Donc, tant qu'on n'arrête pas la guerre et qu'on ne trouve pas des sources alternatives énergétiques, oui, on peut mettre des caps et ça va faire baisser automatiquement l'inflation, mais ça ne change pas sa structure. Donc, ce n'est pas la demande aujourd'hui. Donc, on casse pour rien la demande, finalement. Et même si c'est une
récession
qui tire l'inflation à la hausse.
Un peu quand même. Je sais que vous l'avez bien...
Aux États-Unis, en Europe.
Un peu en Europe aussi, quand même.
Non, on mais la seule chose qui...
On a eu un effet rattrapage post-Covid, on avait besoin de...
Mais même aux États-Unis, je veux dire, le taux d'épargne aujourd'hui, il est moitié moindre que ce qui était avant la Covid, parce que les gens essaient de... Nous, non, pas encore. Et je pense que la seule inconnue de cette récession, c'est le marché de travail, effectivement. Tant qu'il va rester tendu, les gens garderont encore un petit peu de souplesse dans les dépenses, mais on perd à peu près 1,5% de points de pouvoir d'achat. Oui, on aurait pu perdre le double, mais quand même, on perd du pouvoir d'achat.
William, les sociétés, je comprends ce que vous dites, mais les sociétés, enfin, nous, on est sur le terrain aussi, hein, elles commencent à souffrir quand même. Hein. C'est-à-dire les hausses des prix.
Jusqu'au troisième trimestre, les publications, on n'a pas vraiment de problème.
Jusqu'au deuxième trimestre, j'ai envie de dire. Le troisième trimestre, moi, depuis cet été, on sent un changement d'ambiance, notamment dans les PME, on sent qu'il y a des difficultés.
Sur la construction, oui.
Ouais, mais pas que.
La distribution aussi.
Le digital, le secteur, même le secteur des services, il y a quand même une pression. Bah vous qui parlez à des entrepreneurs, vous n'avez pas senti un changement d'ambiance depuis
tout à fait. C'est en train de tourner, mais avec peut-être quelque chose qui a changé dans chez les chefs d'entreprise, c'est-à-dire que je le vois par exemple sur la question sur la trésorerie. On a sorti une enquête avec BPI France sur où on interroge les PME. Donc, c'est pas forcément celles que vous allez regarder sur les marchés, mais vraiment les petites entreprises. Et en fait, ils nous disent que la trésorerie est en train de se dégrader, ça va moins bien. Mais ça, c'est de l'appréciation qualitative. Quand vous regardez quantitativement le montant de cash que vous avez encore dans les entreprises, il n'y a aucun problème. Le cash est encore là, est encore très abondant, quand vous le comparez à l'engagement de dette qu'ils ont. Et donc, il y en a encore sous le pied. Mais c'est peut-être un peu comme si les chefs d'entreprise étaient habitués à vivre avec un niveau de cash très élevé.
C'est
parce qu'ils ont devant eux quand même
une incertitude, surtout en Europe. C'est leur épargne de précaution. Oui, c'est l'équivalent de notre épargne de précaution.
Et celle-ci, elle est quand même assez importante parce que combien vous allez payer votre électricité l'an prochain ? Personne ne sait le dire. Et donc, il y a une volonté d'avoir un niveau de cash beaucoup plus important que ce que l'on avait auparavant, et on peut donc avoir une perception de ce que la trésorerie se dégrade, parce qu'elle se dégrade par rapport au niveau désiré. C'est ça
et on n'a pas eu encore le choc de taux d'intérêt pour les entreprises en Europe, parce que les banques ont pas mal absorbé, et puis la BCE s'est mise à augmenter les taux en milieu d'année, donc ça va venir en première moitié 2023. Et ça risque de coûter plusieurs points de marge, surtout aux entreprises les plus endettées, et la France en fait partie, l'Italie et l'Espagne, donc clairement c'est un choc de profitabilité additionnel au choc énergétique.
Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, William ?
Petit bémol là-dessus, c'est...
Vous faites que des bémols, vous.
Ouais,
vous êtes l'homme du bémol, en fait.
Non, mais... Par rapport à l'historique, les sociétés françaises cotées, en fait, ce que je regarde, n'ont jamais été aussi peu endettées. C'est impressionnant. La création monétaire, ça a des effets. La monnaie, elle se trouve à la fin dans les bilans des boîtes.
Allez, on va rester là-dessus. On passe tout de suite à la question d'argent, mais j'ai l'impression que ça va devenir une battle. Est-ce qu'il faut revenir sur les valeurs de croissance? Alors, c'est elles qui ont alimenté la hausse folle des dernières années, puis patatras, ça a été la cata, la chute, on l'a vu. Hein. Le Nasdaq, bon, quand même, un peu l'indice de valeur de croissance qui a chuté lourdement, chute brutale de la Bitech. On atteint des écarts, je parle sous vos contrôles, vous les gérants, mais entre les valeurs de croissance et les actions dites value, je crois qu'on est sur des écarts qui sont quasiment historiques. Alors, on y va. Virginie Robert, oui. Est-ce qu'on doit
alors,
miser sur les valeurs de croissance?
Revenir aux fondamentaux, c'est quoi une valeur de croissance?
Allez-y, c'est quoi?
Je pose la question à William.
Alors, c'est facile, c'est une société qui se vend plus cher que la moyenne du marché.
D'accord. Alors, on est d'accord. Donc, ça, c'est bien. Donc, je vais rétablir. Alors, par exemple, dans l'indice value du S&P 500, le troisième poste, c'est Procter & Gamble ou Johnson & Johnson. Okay. C'est considéré comme de la value.
Oui.
OK. Vous prenez l'indice S&P Growth, donc oui. Croissance. Oui. Dedans, vous allez retrouver Apple, Microsoft, Amazon, Google.
Okay.
Je vais prendre deux sociétés que je n'ai jamais citées dans l'émission.
Oui.
Donc Google et Procter. Okay. Procter, hausse du chiffre d'affaires attendue pour les trois prochaines années. Allez, ça va se situer entre 0 à 3%, tout dépendra de l'inflation, puisque ça suit l'inflation, effectivement. Google, croissance du chiffre d'affaires attendue après avoir été revu à la baisse, puisque toutes ces sociétés ont communiqué effectivement sur leurs prévisions de 2023, ce qui n'est pas forcément fait en Europe d'ailleurs. Croissance moyenne annuelle, 15%. Valorisation de Procter ou Johnson & Johnson, pour regarder, prenez Procter, 24 fois. Valorisation de Google, 19 fois. Donc Google, vous la mettez en valeur de croissance ou en valeur value?
Les deux sont en valeur de croissance. Voilà, pour moi, historiquement, le marché valorise les sociétés cotées 15 fois le résultat historique.
Bon, donc, voilà. D'accord. Donc, vous, aujourd'hui, vous nous dites... Non, mais c'est intéressant.
Ouais. Ben oui, non, mais c'est
super,
ça.
Non, mais c'est super intéressant.
Non, mais Benjamin Graham disait...
Allez-y. Si on cite Benjamin Graham, ouais. C'est-à-dire que là, on a passé un cap.
Mais c'est pour ça que ça veut rien dire.
Allez-y.
Ça veut rien dire.
Non, mais ça veut dire, si vous achetez une société plus de 20 fois le résultat net, vous avez des chances raisonnables de perdre votre argent.
D'accord.
Pas sur le long terme. Alors ça dépend de l'horizon de temps, parce que vous prenez la croissance.
Ça dépend de la croissance du chiffre d'affaires,
sur
3 William,
ans,
non
oui, mais sur 5 ans.
Non. Mais personne n'en sait rien. Non, mais c'est ça un peu la différence de philosophie. C'est globalement, on estime. Enfin, pour moi, personne n'est capable de prévoir l'avenir. Il y a les chiromanciens pourraient le faire éventuellement, ou les tireuses de cartes.
Non, mais il y a des boîtes. Il y a des boîtes qui ont des taux de croissance structurelle qui sont relativement faibles, et puis il y a des boîtes qui sont capables, parce qu'elles sont sur un marché booming, de faire 50% de croissance du chiffre d'affaires. Ça existe, ça.
Ça existe, oui. Mais d'abord, il faut le prévoir à l'avance. C'est oui. Ça la complication.
Et de toute façon, le sujet, Marc, la performance, c'est la création de valeur. C'est pas la valorisation d'un titre qui va faire que ça va être ça va donner de la performance ou pas. C'est la création de valeur de l'entreprise.
Et nous sommes tout à fait d'accord.
Voilà. Ah, ouais.
Alors, nous sommes tout à fait d'accord.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pas de valeur de croissance. Donc, ce que vous dites.
Pas de valeur
vous...
de croissance. On va expliquer pourquoi.
Allez-y.
Bon, globalement, moi je suis value et globalement, on a le meilleur fonds sur les 10 dernières années. En période où tout le monde avait pensé que la croissance, ça marchait bien et que d'après les indices, ça marche très bien.
OK.
Aujourd'hui, vous pouvez acheter Jacquet Metal, on va oui. parler dans deux secondes, oui. À deux fois le résultat de l'année.
OK.
Bon, ce qui veut dire que vous êtes sûr qu'ils vont avoir des problèmes.
Oui.
Nous, on dit simplement, on n'en est pas sûr. Vous pouvez acheter ALD qui fait de la location de voitures sur longue période, à 5 fois le résultat net, le marché est à 15 fois.
Okay.
On n'est pas sûr qu'ils auront des problèmes, c'est tout.
Okay. Donc Stellantis, donc c'est un peu toujours la même musique, quoi. D'accord. Donc vous, attendez, c'est intéressant parce que en fait, vous avez posé la bonne question, j'aurais dû la poser, mais j'ai même pas pensé parce que je suis nul. C'est comment on définit une valeur de croissance. Et vous, vous dites, vous répondez. C'est une réponse qui est très intéressante, hein, qui est de dire une valeur de croissance, c'est une valeur qu'on paye plus de 15 fois.
Ouais, 15 fois, c'est oui. très dur. 20 fois, ça c'est le minimum. La barre à 20 fois.
Bon, mais j'aime bien quand ça fight un peu. C'est sympa, ça. Allez, quel est le mot de la semaine pour vous, Anna?
Impasse pour moi.
Impasse.
Impasse sur plusieurs plans, hein, quand on regarde la guerre, mais aussi au plan budgétaire. C'est pour revenir un peu au sujet.
Quoi, aux États-Unis.
Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a vu quand même le budget, c'est pas vraiment très très facile. Et puis ça sera pas facile dans les années à venir. Et puis impasse politique aussi, hein, parce qu'on est on n'en a pas trop parlé de ce que va devenir la relation États-Unis-Chine, États-Unis-Europe. On est dans plusieurs, et on est dans une impasse aussi en Europe, parce qu'on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord. Alors que bon, on était bien parti depuis le début de l'année à gérer la crise, à se coordonner pour la guerre, et puis.
Je trouve pas qu'on soit en impasse en Europe. Je trouve qu'on est en recentrage, c'est-à-dire que je trouve.
Sur nous-mêmes, oui.
Non, bravo. Mais je pense qu'il y a un renversement des alliances en fait au sein de l'Europe, c'est-à-dire qu'on va.
Et donc tu vois quelles alliances en ce moment?
Moi, je vois une alliance, une Europe plutôt centrale et orientale, plutôt qu'une Europe. Bon, où il y avait cet axe Paris, Berlin, éventuellement l'Italie.
Tu n'es pas d'accord avec le fait que si tu n'as pas l'axe Paris-Berlin, tu n'as pas grand-chose?
Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'aujourd'hui, une Europe, malheureusement, c'est très malheureux pour la France, c'est malheureux pour l'Italie, c'est malheureux pour l'Espagne, mais je pense qu'une Europe bon, qui sera de fait un peu, comme toujours, hein, sous la signature allemande, tournée vers l'Europe centrale et vers l'Europe de l'Est, c'est une autre configuration.
Ouais.
Le mot, votre mot, William.
Alors pour moi, c'est l'imprévisibilité.
Ouais, on a bien compris.
C'est bon, on voit les élections américaines. Mais moi, je suis moins inquiet pour les États-Unis. C'est-à-dire, il n'y a pas de discipline de parti. Hein.
Ouais.
Donc le fait que les Républicains aient une majorité très faible à la Chambre des représentants, ça veut dire qu'ils n'ont pas de majorité.
Ouais.
Mais tout est imprévisible, mais comme d'habitude.
Et donc, il faut s'attacher aux fondamentaux. C'est ça que vous nous dites. Comme tout est imprévisible.
Comme tout est imprévisible, il faut mieux regarder ce qui est en train de se passer.
Ce qui est proche du sol.
Voilà.
C'est le bon sens.
Warren Buffett, j'ai toujours des citations, qui disait on voit mieux par le rétroviseur que par le pare-brise.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est complètement faux, parce qu'on voit vachement mieux avec un pare-brise qu'avec un rétroviseur. Virginia Robert.
C'est dollar américain. Parce que les marchés ont remonté, effectivement, et le dollar s'est déprécié. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'inflation européenne, mais c'est une bonne nouvelle pour les sociétés, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans les résultats, alors je parle des sociétés américaines, l'impact de devise avait probablement pas été aussi bien calculé. Et il y a un véritable impact. Et je dis que c'est une bouffée d'oxygène parce que probablement que le dollar était trop haut et ça va redonner de l'oxygène. C'est peut-être un des signes blancs. On verra si ça perdure, hein, à voir, parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'évolution d'une monnaie, évidemment. Mais c'est un point à surveiller. C'est un point à surveiller aussi pour des sociétés européennes qui ont bénéficié de la faiblesse de l'euro. À considérer aussi sur les mois à venir.
Parce que ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler pour les gens qui ne suivent pas le marché des changes, c'est qu'on a eu une explosion du dollar. On a retrouvé des niveaux, par exemple, contre l'yen qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans.
Je ne peux pas prévoir, parce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus dur, en tout cas faire des prévisions sur l'échange, je ne m'y risquerai pas, c'est évident, mais là, de voir qu'il est repassé de 0,96 sur l'euro-dollar à 1,04, 1,03, 1,04...
Enfin, d'un autre côté, il vient de beaucoup plus haut.
Oui,
donc
mais c'est une bouffée d'oxygène, et notamment pour certaines valeurs américaines, certaines sociétés, et attention en contrepartie.
Oui.
Et vous, à contrario, la performance du dollar, ça a été une aubaine
pour
vos portefeuilles.
Oui, alors à court terme, c'est pas une bonne nouvelle, moi.
Oui, parce que vos investisseurs, je rappelle, ils sont en euros.
Exactement. Bien sûr. Mais moi, je préfère regarder le long terme.
Ok. Bah, vous regardez à travers le pare-brise.
Oui, voilà.
Mais les profits en euros ont baissé, on est d'accord. Parce que tout le monde regarde les profits en dollars.
Ah oui, bien sûr.
Pour l'Europe.
Évidemment. Ouais. Denis Ferrand.
Le mot, c'est pré-vente. Parce que 90% des logements qui sont vendus en Chine sont pré-vendus. Et c'est ça qui a apporté en fait la liquidité aux promoteurs immobiliers chinois. Sauf que quand vous avez le Covid, pré-vendre des logements, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, vous vous retrouvez avec des ménages qui ont acheté leur logement il y a de cela 6-7 ans. Logements qui ne sont toujours pas construits, qui ne sont pas vendus. Ça a déclenché un mouvement de boycott de remboursement des emprunts hypothécaires en Chine. Et ça a commencé à avoir des effets effet de capillarité sur la situation du système bancaire en Chine. Les Chinois ont annoncé cette semaine un plan pour soutenir le marché immobilier, pour protéger ceux qui auront aussi préacheté. Et ce faisant, on a vu une détente se faire sur les spreads, sur les CDS des titres bancaires chinois.
On n'a pas beaucoup parlé de la Chine, mais on devra en parler parce que la Chine est à contre-cycle. Hein, donc, ça peut être une bonne nouvelle qu'elle recommence à démarrer à un moment où le reste du monde va être un peu en récession. Et en plus, c'est une bonne nouvelle qu'elle démarre à un moment où l'inflation commence un peu à ralentir. Parce que sinon, on aurait eu vraiment le pire des deux mondes. Allez, on passe au top 3. On y est presque. On y est presque. J'ai presque un gérant. C'est pas arrivé depuis des mois. J'ai presque un gérant qui est positif. Pierre Chang est à moins 0,5% seulement. Waouh! Mais moins 0,5% cette année, c'est champagne. Hein. Frédéric Rosier, moins 3,8%. Et notre ami Romain Burnand, moins 4,2%. On est un peu à la bourre sur les portefeuilles, donc on va pas reprendre votre portefeuille. Vous allez me dire que vous vendez rien, j'imagine, ou alors vous vendez une de vos
valeurs. J'avais communiqué, donc.
Alors, qu'est-ce que vous vendez?
On a vendu.
Allez-y, on le dit maintenant.
Eco.
Okay.
Les services dans l'aéronautisme, enfin, dans les pièces pour l'aéronautisme.
Et on achète. Qu'est-ce qui fait que vous le vendiez?
Parce que ça a bien monté et je pense que dans un marché, vous voyez, c'est là ma petite touche positive, c'est que je pense qu'il faut commencer à anticiper effectivement un retour d'appréciation de certaines valeurs et je pense qu'il y a mieux à faire. En fait, je suis dans la...
Vous êtes dans l'arbitrage.
L'arbitrage, d'accord. Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire?
Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? Ah ben voilà, bon, nous on achète du Salesforce. Alors, même si, attention, à court terme, il y a quand même un risque parce que...
Rappelez-nous ce qu'ils font d'abord.
Alors, c'est le leader mondial parce que c'est vraiment le leader, ils ont 20% de part de marché dans les services de gestion relations clients, ce qu'on appelle le CRM, Client Relationship Manager, OK, Management. Et donc, il faut aussi d'autres choses, mais c'est vraiment, ils ont 20% de part de marché sur ce segment. C'est une très forte culture d'entreprise. Ils ont créé un écosystème, ils ont les produits intégrés.
Ils sont partout, surtout.
Ils sont partout. Ils ont adressé... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Salesforce, ils ont adressé l'international, les PME, et d'ailleurs, ils ont souffert de l'appréciation du dollar. Et donc, ça rejoint ce que je disais avant. Mais surtout, là, ils vont être en récolte de leurs investissements. C'est-à-dire que nous, on joue le retour à la progression des marges sur 3-4 ans. Hein. Et il y a un chiffre d'affaires en moyenne annuelle qui s'établit à 17% pour les années à venir. Donc ça, ça nous va bien. Elle a été évidemment très pénalisée dans le marché. Donc on commence
elle a perdu
à revenir.
Depuis le début de l'année?
Je sais pas, on doit être à moins 50.
C'est les soldes.
Je sais pas le chiffre. Parce
c'est les soldes,
avait
c'est Black
avant.
Friday.
Elle avait fait une acquisition, souvenez-vous, Slack qui avait été décrié.
Black Friday.
Donc voilà. Donc elle est en... Alors,
allez, pour faire plaisir à William.
À court terme, quoi, attention, parce que fin novembre,
c'est quoi, le ratio
il peut y avoir une déception.
D'accord, donc on se précipite. Allez, pour
sur
faire
2023,
plaisir.
Je donne un ratio sur 2023, on est à 32, donc c'est beaucoup
32
plus
cher. C'est magnifique. On est dans la valeur de croissance. Non, parce que 2022, on est à 50 fois, non?
Ouais,
ouais.
On est plus que ça.
Allez, William.
Ça ne veut rien fait... dire un PE pour une société comme ça.
Ça ne veut rien dire, William, un PE pour une société.
Mais je suis convaincu qu'effectivement, la plupart des gens raisonnent comme ça. Mais...
Allez, William.
Donc,
qu'est-ce
moi, je présente une société qui...
Alors, vous n'avez pas de portefeuille, puisque vous n'êtes pas un nouveau venu, puisque vous étiez venu dans l'émission il y a quelques années, mais vous n'êtes pas...
Tout le monde m'avait oublié, oui.
Et jamais. Et donc là, on démarre un portefeuille. Vous avez même le droit de donner plusieurs valeurs quand on démarre un portefeuille.
Alors, j'en donne deux.
Allez-y.
Jacques et Métal. Donc, Jacques et Métal...
Rappelez-nous ce qu'ils font.
Distribue de l'acier en Europe et un peu aux États-Unis. C'est une société qui a fait 160 millions de résultats au premier semestre, qui capitalise 340 millions d'euros. Donc, un price earning sur l'année d'à peu près 2. Donc, en bref, tout le monde anticipe la catastrophe et on est assez d'accord. Enfin, c'est pas la catastrophe, c'est le résultat normal, c'est 60 millions d'euros. Donc, ils vont faire 170 cette année. Et comme il y a un mauvais news flow, personne n'en veut.
D'accord, mais et c'est là que vous arrivez.
Et c'est là qu'on arrive, parce que sur un bénéfice normal, c'est 7 fois. Le prix normal d'une boîte cotée, c'est 15 fois. Pourquoi 7 fois? On n'en sait rien.
D'accord. Ça, c'est pour la première, Jacques et Métal. La deuxième?
Après, la deuxième, c'est ALD. C'est un peu la même histoire. Ils louent des voitures, des flottes de voitures aux entreprises.
C'est surprenant, ça, parce que c'était assez une introduction qui avait assez bien marché, hein, en démarrage.
Non, enfin, peut-être non. Au démarrage, mais depuis, c'est la catastrophe.
Oui, oui.
C'était introduit à 15, ça vaut 10, 11 aujourd'hui. Les résultats sont hyper bons. Okay. Donc, effectivement.
Il n'y a pas un phénomène de taux, quand même?
Non, en fait, les taux enfin, leurs clients soit achèteront la voiture et emprunteront à la banque, soit ils iront voir ALD, ils auront un taux plus élevé, donc ça c'est pas grave. Donc ALD, des résultats exceptionnels parce que les voitures d'occasion se vendent comme des petits pains. D'accord. Donc ils gagnent 3000 euros par voiture, normalement c'est 500. Donc price earning de 5. Nous sommes assez d'accord avec le marché, ça peut être 10 fois en moyenne, mais c'est gratuit.
D'accord. Et juste une question, une réponse ultra rapide parce qu'on n'a pas le temps. Il y a beaucoup de sociétés qui sont à des PE, des price earnings. Des...
À ce niveau-là, non.
Non, mais en dessous de 10.
Il y en dessous de 10, on a un portefeuille qui est à 8 en moyenne.
Ah oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la battle, c'était excellent. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. C'était un plaisir, Anna.
Merci.
Allez, on vous souhaite all the best. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer, je viens de l'apprendre, hein, qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas, faites péter les records. Hein. Vous pouvez nous écouter, nous voir ou nous revoir en replay, podcast sur RMC, BFM Play et surtout sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Qu'est-ce que c'est sympa de vous retrouver. La semaine dernière, il n'y avait pas d'émission, vous savez, pour des raisons indépendantes de ma volonté. C'est quand même sympa. On est très content, content de retrouver les invités, content de refaire cette émission, content de parler de ceux dont on a parlé en première partie. En deuxième partie d'émission, on va parler évidemment questions incontournables. Où vont les marchés? Est-il temps? C'est la question d'argent de la semaine. Est-il temps de revenir sur les valeurs de croissance? Et bien, évidemment, on aura les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants. Et il y a des surprises, c'est marrant. Enfin. Et les actions à acheter ou vendre. Alors les marchés, on y va, on fonce. Bon, ça va mieux quand même. On s'est fait très très peur, hein. Rien n'est acquis. Hein. Mais bon, le CAC en baisse de 7-8%, le DAX 10%, le S&P 16%, le Nasdaq quand même, hein, en baisse de 28,5% malgré son rebond fulgurant de la semaine dernière. Bon, voilà, en gros, on est dans un environnement fortement en baisse. D'ailleurs, si on débarquait aujourd'hui, on se dirait « Ah ouais, quelle année pourrie !» Oui, mais si on fait la comparaison avec ce qui s'est passé il y a deux semaines encore, on regardait les chiffres. Alors, c'est un beau comeback des marchés. Mois d'octobre spectaculaire. Depuis quelques séances de hausse, hein, historique presque, hein, 7% sur le Nasdaq quand il y a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Et toujours la même interrogation, hein, Virginie Robert, est-ce que c'est la fin de la baisse? Est-ce que ça y est, on tourne la page? Le pivot, on a le pivot de l'inflation, on va avoir le pivot des banques centrales, donc il est normal qu'on ait le pivot des marchés, ou comme beaucoup le disent encore, de gens très prudents, ils disent non, attendez, c'est juste un rebond technique dans une tendance de fond qui est baissière.
Alors, ça peut être un effectivement, j'en sais rien.
Si vous en savez rien, c'est pas moi qui vais répondre.
Parce que je vais vous dire, les séances à plus 7%, ça, c'est éventuellement des rachats de short.
Qu'est-ce que c'est beau?
Mais oui, parce que ça fait du bien, effectivement. Ouais, mais il y a beaucoup de shorts quand même. Vous regardez certaines sociétés, elles sont très shortées. Donc,
shortées, ça veut dire des vendeurs à découvert, c'est-à-dire des gens qui jouent le fait que leur valeur.
Donc là, ils se remettent neutres. Bon, donc là, mécaniquement. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour qu'il y ait vraiment un rebond dans les marchés, il faut qu'on switch, enfin qu'on passe d'un modèle de, on appréhende les marchés sur le momentum à un modèle d'analyse fondamentale. Il y a quelques signes, on voit bien que là, vous avez vu cette semaine, Walmart a bien publié, c'est bien passé, Target qui est dans le même secteur, ça s'est mal passé. Donc on voit bien que il peut y avoir une espèce de différenciation. Mais il y a encore 15 jours, il y avait deux sociétés dans le secteur des softwares qui avaient publié et tout le secteur a été planté sur la semaine. Donc, pour le moment, on n'est pas encore sur un marché très stable, mais je pense qu'on est plus proche en tous les cas. Comme je dis, les signes noirs, ils sont passés et peut-être qu'il y a des signes blancs qui vont commencer à revenir dans le ciel. Donc oui, il faut commencer.
Donc,
de toute façon,
pas,
on ne peut pas faire
pas
blanc,
affirmer
noir,
comme Denis. Dit tout à l'heure, le pivot de l'inflation aux États-Unis, ça y est. Là, on n'a pas pivoté,
bon,
mais vous dites...
Faut y aller,
on
oui.
On peut commencer à racheter.
Bah, évidemment.
Bah, évidemment, est-ce que je sais, moi?
Oui, évidemment. Moi, particulier sur les valeurs de croissance, parce qu'il y a...
Ah, on va en parler tout à l'heure. Non, pardon. C'est le thème d'après.
Okay.
William, les marchés.
On n'en sait jamais rien.
Oui, bah ça, par principe. Okay,
par principe, donc c'est pour ça qu'on est toujours investi à 100%. Et donc je conseille à tout le monde d'être investi à 100%.
Ouais, mais attendez.
Parce que généralement, non, les attendez. Marchés montent. Faut jamais oublier
okay,
ça.
Ok, William, on est à 100%. Ah, ça fait très très mal. Excusez-moi l'expression, ouais. Ça fait mal aux fesses. Hein, une année où, quand vous êtes investi à 100% sur le Nasdaq, vous perdez 35%. Oui.
Il faut jamais être investi sur le Nasdaq.
Ah, du tout?
Non, mais il ne faut pas investir dans les valeurs de croissance.
Ouh là 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 là, on va en parler. Ah là là, il va y avoir un très beau débat tout à l'heure. Bon, les marchés, ça va rebondir ou pas?
Les marchés, d'abord, ne pas oublier qu'il y a une guerre en Ukraine, que tous les États sont en train de se réarmer, que généralement, ça a toujours été bon pour l'économie. Donc c'est pour ça que j'étais plutôt optimiste après le mois de février. Que par ailleurs, moi je suis monétariste, donc je dis il y a énormément de monnaie partout. Donc c'est un soutien pour les marchés, pour l'activité. Et c'est pour ça que bon, la récession que tout le monde prévoit l'année prochaine, je ne suis pas complètement convaincu qu'elle ait lieu. Et de toute façon, elle est déjà dans
le... Vous voulez dire qu'ils se plantent les deux là, Anna et Denis?
Non mais bon...
Non, vous pouvez leur dire, hein, ils sont là, ils vous écoutent. Hein. Vous pouvez leur parler. Hein.
Ma vision, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. Ouais. Donc, c'est à partir du moment où tout le monde est d'accord pour dire il y a la récession en 2023,
c'est trop tard.
Il faut garder la petite possibilité qu'elle n'ait pas lieu.
Oui, mais surtout que... Attendez, là, on va revenir là-dessus, puis je vais passer la parole deux secondes, même si on parle marché aux économistes, ils ont le droit d'en parler. C'est une récession qui est souhaitable. Parce que, comme on vient de le dire, elle va permettre de réduire les déséquilibres, elle va permettre d'atténuer l'inflation. Donc, non.
Bah, ça dépend d'où elle vient. Si la récession elle vient que du consommateur, parce que en fait, malgré les aides étatiques, il perd du pouvoir d'achat. Oui, il va peut-être consommer un peu moins, mais comme je disais, de toute façon, on a une vague déflationniste sur les biens qui vient. Les services, peut-être, ça va aider les services à se calmer, même si aujourd'hui, elles sont pas source d'inflation.
Ouais.
Donc, tout dépend du type de l'origine de récession. Après, effectivement, normalement, dans la durée.
Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais ça ne va pas vraiment régler le problème d'inflation. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la moitié de l'inflation, elle est drivée par les prix de l'énergie. Okay. Donc, tant qu'on n'arrête pas la guerre et qu'on ne trouve pas des sources alternatives énergétiques, oui, on peut mettre des caps et ça va faire baisser automatiquement l'inflation, mais ça ne change pas sa structure. Donc, ce n'est pas la demande aujourd'hui. Donc, on casse pour rien la demande, finalement. Et même si c'est une
récession... C'est pas la demande, d'ailleurs.
Qui tire l'inflation à la hausse.
Un peu quand donc, même. Je sais que vous l'avez bien...
Aux États-Unis, mais pas en Europe.
Un peu en Europe aussi, quand même.
Non, mais la seule chose...
On a eu un effet rattrapage post-Covid, on avait besoin de...
Mais même aux États-Unis, je veux dire, le taux d'épargne aujourd'hui, il est moitié moindre que ce qui était avant la Covid, parce que les gens essaient de... Nous, non, pas encore. Et je pense que la seule inconnue de cette récession, c'est le marché de travail, effectivement. Tant qu'il va rester tendu, les gens garderont encore un petit peu de souplesse dans les dépenses, mais on perd à peu près 1,5% de points de pouvoir d'achat. Oui, on aurait pu perdre le double, mais quand même, on perd du pouvoir d'achat.
William, les sociétés, je comprends ce que vous dites, mais les sociétés, enfin, nous, on est sur le terrain aussi, hein, elles commencent à souffrir quand même. Hein. C'est-à-dire les hausses des prix.
Jusqu'au troisième trimestre, les publications, on n'a pas vraiment de problème.
Jusqu'au deuxième trimestre, j'ai envie de dire. Le troisième trimestre, moi, depuis cet été, on sent un changement d'ambiance, notamment dans les PME, on sent qu'il y a des difficultés.
Sur la construction, oui.
Ouais, mais pas que.
La distribution aussi.
Le digital, le secteur, même le secteur des services, il y a quand même une pression. Bah vous qui parlez à des entrepreneurs, vous n'avez pas senti un changement d'ambiance depuis
Oui, tout à fait. Hein, c'est en train de tourner, mais avec peut-être quelque chose qui a changé dans les chefs, chez les chefs d'entreprise, c'est-à-dire que je le vois par exemple sur la question sur la trésorerie. On a sorti une enquête avec BPI France sur où on interroge les PME. Donc, c'est pas forcément celle que vous allez regarder sur les marchés, mais vraiment les petites entreprises. Et en fait, ils nous disent que la trésorerie est en train de se dégrader, ça va moins bien. Mais ça, c'est de l'appréciation qualitative. Quand vous regardez quantitativement le montant de cash que vous avez encore dans les entreprises, il n'y a aucun problème. Le cash est encore là, est encore très abondant, quand vous le comparez à l'engagement de dette qu'ils ont. Et donc, il y en a encore sous le pied. Mais c'est peut-être un peu comme si les chefs d'entreprise étaient habitués à vivre avec un niveau de cash très élevé.
C'est
parce qu'ils ont devant eux quand même une
incertitude, surtout en Europe. C'est leur épargne de précaution. Oui, c'est l'équivalent de notre épargne de précaution.
Et celle-ci, elle est quand même assez importante parce que combien vous allez payer votre électricité l'an prochain ? Personne ne sait le dire. Et donc, il y a une volonté d'avoir un niveau de cash beaucoup plus important que ce que l'on avait auparavant, et on peut donc avoir une perception de ce que la trésorerie se dégrade, parce qu'elle se dégrade par rapport au niveau désiré. C'est ça
et puis, on n'a pas eu encore le choc de taux d'intérêt. pour les entreprises en Europe. Parce que les banques ont pas mal absorbé, et puis la BCE s'est mise à augmenter les taux en milieu d'année, donc ça va venir en première moitié 2023. Et ça risque de coûter plusieurs points de marge, surtout aux entreprises les plus endettées, et la France en fait partie, l'Italie, l'Espagne, donc clairement c'est un choc de profitabilité additionnel au choc énergétique.
Vous voulez rajouter quelque chose, William ?
Petit bémol là-dessus, c'est...
Vous faites que des bémols, vous.
Oui,
Vous êtes l'homme du bémol, en fait.
Non, mais... Par rapport à l'historique, les sociétés françaises cotées, en fait, ce que je regarde, n'ont jamais été aussi peu endettées. C'est impressionnant. La création monétaire, ça a des effets. La monnaie, elle se trouve à la fin dans les bilans des boîtes.
Allez, on va rester là-dessus. On passe tout de suite à la question d'argent, mais j'ai l'impression que ça va devenir une battle. Est-ce qu'il faut revenir sur les valeurs de croissance? Alors, c'est elles qui ont alimenté la hausse folle des dernières années. Puis patatras, ça a été la cata, la chute, on l'a vu. Hein. Le Nasdaq, bon, quand même, un peu l'indice de valeur de croissance qui a chuté lourdement. Chute brutale de la Bititech. On atteint des écarts, je parle sous votre contrôle, vous les gérants, mais entre les valeurs de croissance et les actions dites value, je crois qu'on est sur des écarts qui sont quasiment historiques. Alors, on y va. Virginie Robert, est-ce qu'on doit miser sur les valeurs de croissance?
Revenir aux fondamentaux, c'est quoi une valeur de croissance?
Allez-y, c'est quoi?
Je pose la question à William.
Alors, c'est facile, c'est une société qui se vend plus cher que la moyenne du marché.
D'accord. Alors, on est d'accord. Donc, ça, c'est bien. Donc, je vais rétablir. Alors, par exemple, dans l'indice value du S&P 500, le troisième poste, c'est Procter & Gamble ou Johnson & Johnson. Okay. C'est considéré comme de la value.
Oui.
OK. Vous prenez l'indice S&P Growth, donc croissance.
Oui.
Dedans, vous allez retrouver Apple, Microsoft, Amazon, Google.
Okay.
Je vais prendre deux sociétés que je n'ai jamais citées dans l'émission.
Oui.
Donc, Google et Procter. Ok. Procter, hausse du chiffre d'affaires attendue pour les trois prochaines années. Allez, ça va se situer entre 0 à 3%, tout dépendra de l'inflation, puisque ça suit l'inflation, effectivement. Google, croissance du chiffre d'affaires attendue, après avoir été revue à la baisse, puisque toutes ces sociétés ont communiqué, effectivement, sur leurs prévisions de 2023, ce qui n'est pas forcément fait en Europe, d'ailleurs. Croissance moyenne annuelle 15%. Valorisation de Procter ou Johnson & Johnson, pour regarder, prenez Procter, 24 fois. Valorisation de Google, 19 fois. Donc Google, vous la mettez en valeur de croissance ou en valeur value?
Les deux sont en valeur de croissance. Voilà, pour moi, historiquement, le marché valorise les sociétés cotées 15 fois le résultat historique. Bon,
donc,
voilà.
D'accord. Donc vous, aujourd'hui, vous nous dites. Non, mais c'est intéressant.
Ouais. Ben oui, non, mais c'est
super,
ça.
Non, mais c'est super
là,
intéressant.
C'est là où...
Non, mais Benjamin Graham disait.
Allez-y. C'est-à-dire que là, on a passé un cap.
Mais
non, c'est pas ça,
allez-y.
C'est
pour ça que ça veut rien dire.
Allez-y.
Ça veut rien dire dire.
Non, mais ça veut dire, si vous achetez une société plus de 20 fois le résultat net, vous avez des chances raisonnables de perdre votre argent.
D'accord.
Pas sur le long terme. Alors ça dépend de l'horizon de temps, parce que vous prenez
la croissance. Ça dépend de la croissance du chiffre d'affaires,
oui. Oui, mais sur 5 ans.
Non. Mais personne n'en sait rien. Non, mais c'est ça un peu la différence de philosophie. C'est globalement, on estime. Enfin, pour moi, personne n'est capable de prévoir l'avenir. Il y a les chiromanciens pourraient le faire éventuellement, ou les tireuses de cartes.
Mais il y a des boîtes. Il y a des boîtes qui ont des taux de croissance structurels qui sont relativement faibles. Et puis, il y a des boîtes qui sont capables, parce qu'elles sont sur un marché booming, de faire 50% de croissance du chiffre d'affaires. Ça existe, ça.
Ça existe. Oui. Mais d'abord, il faut le prévoir à l'avance. C'est ça la complication.
Et de toute façon, le sujet, Marc, la performance, c'est la création de valeur. C'est pas la valorisation d'un titre qui va faire que ça va être... ça va donner de la performance ou pas. C'est la création de valeur de l'entreprise.
Et nous sommes tout à fait d'accord.
Voilà.
Nous sommes tout à fait d'accord.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pas de valeur de croissance. Donc, ce que vous
pas
dites.
Pas de valeur
vous...
de croissance. On va expliquer pourquoi.
Allez-y.
Bon, globalement, moi, je suis value et globalement, on a le meilleur fonds sur les 10 dernières années. En période où tout le monde avait pensé que la croissance, ça marchait bien et que d'après les indices, ça marche très bien.
OK.
Aujourd'hui, vous pouvez acheter Jacquet Metal, on va parler dans deux secondes, à deux fois le résultat de l'année.
OK.
Bon. Ce qui veut dire que vous êtes sûr qu'ils vont avoir des problèmes.
Oui.
Nous, on dit simplement, on n'en est pas sûr. Vous pouvez acheter ALD qui fait de la location de voitures sur longue période, à 5 fois le résultat net, le marché est à 15 fois.
Okay.
On n'est pas sûr qu'ils auront des problèmes, c'est tout.
Okay. Donc Stellantis, donc c'est un peu toujours la même musique, quoi. D'accord. Donc vous, attendez, c'est intéressant parce que en fait, vous avez posé la bonne question, j'aurais dû la poser, mais j'ai même pas pensé parce que je suis nul. C'est comment on définit une valeur de croissance. Et vous, vous dites, vous répondez, c'est une réponse qui est très intéressante, hein, qui est de dire une valeur de croissance, c'est une valeur qu'on paye plus de 15 fois.
Ouais, 15 fois, c'est très dur. 20 fois, ça c'est le minimum. La barre à 20 fois.
Bon, mais j'aime bien quand ça faillite un peu, c'est sympa ça. Allez, quel est le mot de la semaine pour vous, Anna?
Impasse pour moi.
Impasse.
Impasse sur plusieurs plans, hein, quand on regarde la guerre, mais aussi au plan budgétaire. C'est pour revenir un peu au sujet.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, au Royaume-Uni, on a vu quand même le budget, c'est pas vraiment très très facile. Et puis ça sera pas facile dans les années à venir. Et puis impasse politique aussi, hein, parce qu'on est on n'en a pas trop parlé de ce que va devenir la relation États-Unis-Chine, États-Unis-Europe. On est dans une impasse aussi en Europe, parce qu'on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord. Alors que bon, on était bien parti depuis le début de l'année à gérer la crise, à se coordonner pour la guerre. Et puis,
je trouve pas qu'on soit en impasse en Europe. Je trouve qu'on est en recentrage. C'est-à-dire que je trouve
sur nous-mêmes. Oui.
Bravo. Mais je pense qu'il y a un renversement des alliances en fait au sein de l'Europe. C'est-à-dire qu'on va.
Et donc tu vois quelles alliances en ce moment?
Moi, je vois une alliance, une Europe plutôt centrale et orientale, plutôt qu'une Europe où il y avait cet axe Paris, Berlin, éventuellement.
Ouais,
l'Italie.
Pas d'accord avec le fait que si tu n'as pas l'axe Paris-Berlin, tu n'as pas grand-chose?
Non, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'aujourd'hui, une Europe, malheureusement, c'est très malheureux pour la France, c'est malheureux pour l'Italie, c'est malheureux pour l'Espagne, mais je pense qu'une Europe qui sera de fait un peu, comme toujours, hein, sous la signature allemande, tournée vers l'Europe centrale et vers l'Europe de l'Est, c'est une autre configuration.
Ouais. Après, ouais.
Le mot, votre mot, William.
Alors pour moi, c'est l'imprévisibilité.
Ouais, on a bien compris.
C'est on voit les élections américaines. Mais moi, je suis moins inquiet pour les États-Unis. C'est-à-dire, il n'y a pas de discipline de parti. Hein.
Ouais.
Donc le fait que les Républicains aient une majorité très faible à la Chambre des représentants, ça veut dire qu'ils n'ont pas de majorité.
Ouais.
Mais tout est imprévisible, mais comme d'habitude.
Et donc, il faut s'attacher aux fondamentaux. C'est ça que vous nous dites. Comme tout est imprévisible.
Comme tout est imprévisible, il vaut mieux regarder ce qui est en train de se passer.
C'est proche du sol.
Voilà.
C'est bon sens.
Warren Buffett, j'ai toujours des citations, qui disait on voit mieux par le rétroviseur que par le pare-brise.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est complètement faux, parce qu'on voit vachement mieux avec un pare-brise qu'avec un rétroviseur. Virginia Robert.
C'est dollar américain. Parce que les marchés ont remonté, effectivement, et le dollar s'est déprécié. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'inflation européenne, mais c'est une bonne nouvelle pour les sociétés, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans les résultats, alors je parle des sociétés américaines, l'impact de devises avait probablement pas été aussi bien calculé. Et il y a un véritable impact. Et je dis que c'est une bouffée d'oxygène parce que probablement que le dollar était trop haut et ça va redonner de l'oxygène. C'est peut-être un des signes blancs. On verra si ça perdure, hein, à voir, parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'évolution d'une monnaie, évidemment. Mais c'est un point à surveiller. C'est un point à surveiller aussi pour des sociétés européennes qui ont bénéficié de la faiblesse de l'euro. À considérer aussi sur les mois à venir.
Parce que ce qu'il faut dire, ce qu'il faut rappeler pour les gens qui ne suivent pas le marché des changes, c'est qu'on a eu une explosion du dollar. On a retrouvé des niveaux, par exemple, contre l'yen qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans.
Je ne peux pas prévoir parce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus dur, en tout cas faire des prévisions sur l'échange, je m'y risquerais pas, c'est évident, mais là, de voir qu'il est repassé de 0,96 sur l'euro-dollar à 1,04, 1,03, 1,04.
Ouais, enfin, d'un autre côté, il vient de beaucoup plus haut.
Oui, mais c'est une bouffée d'oxygène, et notamment pour certaines valeurs américaines, certaines sociétés, et attention en contrepartie.
Oui.
Et vous, à contrario, la performance du dollar, ça a été une aubaine un peu pour vos portefeuilles.
Oui, alors à court terme, c'est pas une bonne nouvelle, moi.
Oui, parce que vos investisseurs, je rappelle, ils sont en euros. Exactement.
Mais moi, je préfère regarder le long terme.
Ok. Bah vous avez, donc vous regardez à travers le pare-brise.
Ouais, voilà.
Mais les profits en euros ont baissé, on est d'accord. Parce que tout le monde regarde les profits en dollars.
Ah oui, bien
pour
sûr.
Pour l'Europe.
Évidemment. Ouais. Denis Ferrand.
Le mot, c'est pré-vente. Parce que 90% des logements qui sont vendus en Chine sont pré-vendus. Et c'est ça qui a apporté en fait la liquidité aux promoteurs immobiliers chinois. Sauf que quand vous avez le Covid, bah, prévendre des logements, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc vous vous retrouvez avec des ménages qui ont acheté leur logement il y a de cela 6-7 ans, logements qui ne sont toujours pas construits, qui ne sont pas vendus. Ça a déclenché un mouvement de boycott de remboursement des emprunts hypothécaires en Chine, et ça a commencé à avoir des effets de capillarité sur la situation du système bancaire en Chine. Les Chinois ont annoncé cette semaine un plan pour soutenir le marché immobilier, pour protéger ceux qui auront aussi préacheté. Et ce faisant, on a vu une détente se faire sur les spreads, sur les CDS des titres bancaires chinois.
On n'a pas beaucoup parlé de la Chine, mais on devra en parler parce que la Chine est à contre-cycle. Hein, donc ça peut être une bonne nouvelle qu'elle recommence à démarrer à un moment où le reste du monde va être un peu en récession. Et en plus, c'est une bonne nouvelle qu'elle démarre à un moment où l'inflation commence un peu à ralentir. Parce que sinon, on aurait eu vraiment le pire des deux mondes. Allez, on passe au top 3. On y est presque. Hein. On y est presque. J'ai presque un gérant. Ça c'est pas arrivé depuis des mois. J'ai presque un gérant qui est positif. Pierre Chang est à moins 0,5% seulement. Waouh. Mais moins 0,5% cette année, c'est champagne. Hein. Frédéric Rosier, moins 3,8%. Et notre ami Romain Burnand, moins 4,2%. On est un peu à la bourre sur les portefeuilles, donc on va pas reprendre votre portefeuille. Vous allez me dire que vous vendez rien, j'imagine, ou alors vous vendez une de vos
valeurs. J'avais communiqué, donc.
Alors, qu'est-ce que vous vendez ?
On a vendu Eiko.
Allez-y, on le dit maintenant.
Eiko.
Okay.
Les services dans l'aéronautisme, enfin, dans les pièces pour l'aéronautisme.
Et on achète. Qu'est-ce qui fait que vous le vendiez ?
Parce que ça a bien monté, et je pense que dans un marché, vous voyez, c'est là ma petite touche positive, c'est que je pense qu'il faut commencer à anticiper effectivement un retour d'appréciation de certaines valeurs, et je pense qu'il y a mieux à faire. En fait, je suis dans la...
Vous êtes dans l'arbitrage.
L'arbitrage, d'accord. Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ?
Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire ? Ah ben voilà, bon, nous on achète du Salesforce. Alors, même si, attention, à court terme, il y a quand même un risque. Parce
rappelez-nous ce qu'ils font d'abord.
Alors, c'est le leader mondial, parce que c'est vraiment le leader. Ils ont 20% de part de marché dans les services de gestion relations clients, ce qu'on appelle le CRM, Client Relationship Manager, OK ? Management. Et donc, il faut aussi d'autres choses. Mais c'est vraiment, ils ont 20% de part de marché sur ce segment. C'est une très forte culture d'entreprise. Ils ont créé un écosystème, ils ont les produits intégrés,
ils sont partout,
ils ont adressé, alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait Salesforce, ils ont adressé l'international, les PME, et d'ailleurs ils ont souffert de l'appréciation du dollar, et donc ça rejoint ce que je disais avant, mais surtout là ils vont être en récolte de leurs investissements, c'est-à-dire que nous on joue le retour à la progression des marges sur 3-4 ans. Hein. Et il y a un chiffre d'affaires en moyenne annuelle qui s'établit à 17% pour les années à venir. Donc ça nous va bien. Elle a été évidemment très pénalisée dans le marché. Donc on commence
elle a perdu
à revenir.
Depuis le début de l'année.
Je sais pas, on doit être à moins 50.
Ah, ou, c'est les soldes.
Je sais pas le chiffre. Parce
c'est
que
les soldes, c'est Black
avant.
Friday.
Elle avait fait une acquisition, souvenez-vous, Slack qui avait été décrié.
Black Friday.
Donc voilà. Donc
allez, pour faire plaisir à William.
À court terme, attention, parce que fin novembre,
c'est quoi, le ratio
public, il peut y avoir une déception.
D'accord, donc on se précipite. Allez, pour faire plaisir.
Sur 2023, je donne un ratio sur 2023, on est à 32, donc c'est beaucoup plus.
32 ouais. C'est magnifique. On est dans la valeur de croissance. Non, parce que 2022, on est à 50 fois, non ?
On est plus
que
ça.
Allez, William.
Ça ne veut rien dire un PE pour une société comme ça.
Ça ne veut rien dire, William, un PE pour une société.
Mais je suis convaincu qu'effectivement, la plupart des gens raisonnent comme ça. Mais
allez, William.
Donc,
qu'est-ce
moi, je présente une société qui.
Alors, vous n'avez pas de portefeuille, puisque vous n'êtes pas un nouveau venu, puisque vous étiez venu dans l'émission il y a quelques années, mais vous n'êtes pas.
Tout le monde m'avait oublié, oui.
Et jamais. Et donc là, on démarre un portefeuille. Vous avez même le droit de donner plusieurs valeurs quand on démarre.
Alors, j'en donne deux.
Allez-y.
Jacquet Métal. Donc, Jacquet Métal.
Rappelez-nous ce qu'ils font.
Distribue de l'acier en Europe et un peu aux États-Unis. C'est une société qui a fait 160 millions de résultats au premier semestre, qui capitalise 340 millions d'euros. Donc, un price earning sur l'année d'à peu près 2. Donc, en bref, tout le monde anticipe la catastrophe et on est assez d'accord. Enfin, ce n'est pas la catastrophe, c'est le résultat normal, c'est 60 millions d'euros. Bon, ils vont faire 170 cette année. Et comme il y a un mauvais news flow, personne n'en veut.
D'accord, mais c'est là que vous arrivez.
Et c'est là qu'on arrive, parce que sur un bénéfice normal, c'est 7 fois. Le prix normal d'une boîte cotée, c'est 15 fois. Pourquoi 7 fois? On n'en sait rien.
D'accord. Ça, c'est pour la première, Jacques et Métal. La deuxième.
Après, la deuxième, c'est ALD. C'est un peu la même histoire. C'est... Ils louent des voitures, des flottes de voitures aux entreprises.
C'est surprenant, ça, parce que c'était assez, une introduction qui avait assez bien marché, hein, en démarrage.
Non, enfin, peut-être non. Au démarrage, mais depuis, c'est la catastrophe.
Oui, oui.
C'était introduit à 15, ça vaut 10, 11 aujourd'hui. Les résultats sont hyper bons. Okay. Donc, effectivement.
Il n'y a pas un phénomène de taux, quand même?
Non, en fait, les taux... Enfin, leurs clients, soit achèteront la voiture et emprunteront à la banque, soit ils iront voir ALD et ils auront un taux plus élevé, donc ça, c'est pas grave. Donc, ALD, des résultats exceptionnels, parce que les voitures d'occasion se vendent comme des petits pains.
D'accord.
Donc, ils gagnent 3000 euros par voiture, normalement, c'est 500. Donc, price earning de 5... Nous sommes assez d'accord avec le marché, ça peut être 10 fois en moyenne, mais c'est gratuit.
D'accord. Et juste une question, une réponse ultra rapide parce qu'on n'a pas le temps. Il y a beaucoup de sociétés qui sont à des PE, des price earning, des...
À ce niveau-là, non.
Non, mais en dessous de 10.
Il y en dessous de 10, on a un portefeuille qui est à 8 en moyenne.
Ah oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour la battle, c'était excellent. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. C'était un plaisir, Anna.
Merci.
Allez, on vous souhaite all the best. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer, je viens de l'apprendre, hein, qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas, faites péter les records. Hein. Vous pouvez nous écouter, nous voir ou nous revoir en replay, podcast sur RMC, BFM Play et surtout sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.